Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Aujourd'hui, un entretien intime avec un grand homme de lettres, un voyage à Winnipeg au bord de la rivière Rouge et un récit sexuel et juvénile. C'est un livre qui intrigue nos libraires, une fantaisie confidence très sexuelle. Christophe Donner raconte l'adolescence débridée d'un garçon qui se cherche autour de l'année 1968 dans un contexte qui serait aujourd'hui un pur scandale. Autre confidence avec l'académicien Jean d'Ormesson, il publie un guide des égarés et il nous a reçu chez lui pour cette occasion un entretien intime et délicat sur le sens de la vie. Et puis nous sommes avec Suzanne Aubry, grande auteure québécoise qui publie pour la première fois un roman chez un éditeur européen, français en l'occurrence. Nous irons au Manitoba, du côté de Winnipeg, et il sera question du pardon.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et quatre libraires sont en multiplex à travers la francophonie. En Suisse, c'est Laura Sanchez de la librairie du Boulevard à Genève qui est en duplex avec nous. Bonjour Laura.
Bonjour Emmanuel.
Comment allez-vous?
Très bien.
Ça a l'air. Oui. C'est le retour de Mathieu Colombe qui va un petit peu moins bien, vous allez l'entendre, de la librairie Goulard d'Aix-en-Provence pour représenter la France. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Ça va. Un gros rhume. Pour la Belgique, on retrouve Annick Dor de la librairie de la Mazerine à La Hulpe. Bonjour Annick.
Bonjour Emmanuel.
Pas encore enrhumé, non, c'est pas encore l'hiver. Ça va. Vous tenez le coup.
Oui, il fait quand même froid, mais ça va.
Et bonjour Billy Robinson.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes au Québec, à Montréal, librairie de Verdun, pour représenter le Canada. Tout va bien pour vous?
Très très bien, merci.
Très bien, on est ravis de vous accueillir. Et on part tout de suite chez Jean d'Ormesson, déjà. Bonjour Jean d'Ormesson.
Bonjour.
Merci beaucoup d'accueillir la librairie francophone chez vous, dans votre maison, à Neuilly-sur-Seine, à côté de Paris, pas très loin de l'Arc de Triomphe d'ailleurs, pour nos amis qui nous écoutent à travers le monde. Avant de parler du guide des égarés tout à l'heure, on commence toujours cette émission par une histoire étonnante racontée par l'un de nos invités. Vous avez carte blanche, Jean. Je découvre l'histoire en même temps que tout le monde. Que voulez-vous transmettre?
Eh bien, l'autre jour, j'étais en voiture et j'ai été bloqué, comme souvent, par la benne qui ramasse les ordures. Et stupidement, je donne un tout petit coup de klaxon. Et un de ces hommes vient vers moi et me dit, vous savez, nous travaillons. Et je lui dis, mais je m'excuse, j'ai été stupide d'avoir klaxonné comme ça. Et nous nous mettons à parler 5 minutes. Peut-être 10 minutes. Je vous assure que derrière, les gens s'impatientent.
Ça klaxonnait.
Eh bien, en 10 minutes, ce monsieur, qui était noir, qui ramasse les ordures à Paris, était un type extraordinaire. J'étais enchanté de parler avec lui. C'est devenu un ami. Et une fois de plus, je me suis dit que vraiment, le monde est injuste et que je suis sûr qu'il y a partout des Mozart ignorés, des professeurs au Collège de France qui n'ont pas pu faire carrière. Et une fois de plus, moi qui suis un partisan de l'émulation à l'école et même de la sélection, je ne veux pas que la sélection soit une sélection sociale. Je veux bien que ce soit une sélection de talents. Eh bien, il faut tâcher de donner à tous les chances de réussir.
Merci beaucoup pour cette belle histoire. Jean d'Ormesson est dans la librairie francophone cette semaine. Et bonjour Suzanne Aubry.
Bonjour.
On retrouvera Jean d'Ormesson tout à l'heure. Vous êtes une auteure québécoise à succès, scénariste et romancière, connue pour votre saga historique Fanette, mais aussi pour des séries télé québécoises célèbres comme Sauf qui peut ou Mon meilleur ennemi. Les auditeurs francophones vous découvrent peut-être aujourd'hui et pour cause. Ma vie entre tes mains, votre nouveau roman, est le premier à être publié en Europe chez l'éditeur français Robert Laffont. C'est un roman dit page-turner, comme on le dit en anglais. Une vraie histoire comme ça qui tient en haleine, un roman populaire. Vous assumez cela, hein, de produire des romans populaires?
C'est-à-dire que quand j'écris un roman, je ne pense pas qu'il va être populaire. J'écris un roman d'abord et avant tout. Mais comme je suis scénariste, et je resterai toujours scénariste et auteur de théâtre dans mon cœur et dans mon écriture, c'est certain que je raconte des histoires.
Ouais.
Et quand je raconte une histoire, je veux qu'elle soit intéressante. Donc, le côté page-turner, c'est pas moi. Je pense pas en écrivant, ça sera un page-turner, sinon je serais pas, j'oserais pas porter le nom d'écrivain, mais.
Un petit peu quand même, non?
Ben, c'est-à-dire que.
Parce que c'est construit comme ça.
C'est construit. Ouais. Mais je pense pas au punch à la fin du chapitre. Ou non, pas du tout, c'est un roman. Ouais. Et le roman porte en soi son histoire.
Bon, en tout cas, vous nous emmenez au Canada, dans le Manitoba, du côté de la ville de Winnipeg. Il y a des fermiers, des familles avec leurs secrets et trois gamins au départ de 16-17 ans qui vont faire un braquage chez un vieux couple. Ça tourne mal, un homme est tué et les trois délinquants sont blessés après un accident de voiture au cours de la fuite. On est le 4 avril 1997 et le 22 mars 2011, on retrouve ces hommes dans des situations très compliquées, inextricables a priori.
Oui, ça va pas bien pour eux du tout.
Non.
Le seul qui semble bien s'en sortir, c'est Michel qui porte l'histoire, qui est un peu le narrateur, le protagoniste de l'histoire, qui est à Montréal, qui aurait fait sa vie avec une femme qu'il aime. Il a un enfant de 9 ans qui est autiste.
Oui.
Ça détruit un peu le couple, mais il s'aime et puis il passe au travers. Et elle disparaît du jour au lendemain. Elle le quitte
sans lui dire
pourquoi avec son fils. Et elle retourne à Winnipeg et donc il veut savoir pourquoi il est parti.
Voilà, qu'est-ce qui s'est passé?
Et lui ne doit pas y retourner parce qu'il a passé, il le traîne comme un boulet à ses chevilles, donc c'est dangereux pour lui.
Avec le braquage, on peut le dire, hein, il a fait partie de ce braquage, alors du coup, voilà, il est interdit de séjour, entre guillemets, parce qu'il est encore recherché.
Exactement.
Alors, on a plusieurs personnages qu'on suit comme ça, il y a un qui sort de Léo, qui sort de prison, 14 ans de prison, parce que lui, il s'est fait avoir.
C'est lui qui a casqué, finalement.
Voilà, c'est lui qui a casqué. Et puis un autre qui est dans le coma depuis 14 ans. Et donc, enfin, effectivement, Michel. Alors c'est une rivière, on se retrouve comme ça dans le Manitoba, pas loin de la rivière Rouge, qui a causé de multiples inondations, des crues que l'on retrouve d'ailleurs en fil rouge dans ce livre qui inonde les fermes, qui bouleverse aussi les vies.
Oui, c'est chaque année, il y a des inondations assez terribles au Manitoba. C'est toujours été un problème important parce que c'est très tout plat et les fermes sont, il y a de l'eau partout. Il y a des images terrestres qu'on peut voir absolument hallucinantes et ça fait partie de mon histoire. C'est une métaphore pour le danger qui monte graduellement pour mon héros.
Voilà, c'est exactement ça. C'est une rivière, en tout cas, la rivière Rouge qui borde la frontière entre le Minnesota et le Dakota du Nord aux États-Unis et qui se jette dans le lac Winnipeg au Canada. On va justement écouter le son du monde de la semaine, Suzanne Aubry. On vous emmène au bord de cette rivière rouge avec un reportage de Radio-Canada qui raconte une fameuse crue de 2009. On a retrouvé cela dans nos archives en référence à celle de 1997, la date justement à laquelle débute votre histoire, Suzanne. Des reportages sur ces inondations qui défilent aussi à la télévision dans votre livre. On se met donc dans l'ambiance et dans le cadre de cette histoire. Écoutez.
Mi-avril, ces images défilent sans arrêt au bulletin de nouvelles manitobain. La rivière Rouge est de nouveau sortie de son lit. Des milliers de résidents évacués. Des dizaines de routes fermées. La capitale manitobaine épargnée encore une fois grâce à un canal qui fait dévier le surplus d'eau. Mais au nord de la ville, des embâcles de glace ont endommagé près de 200 maisons. Du haut des airs, on constate l'ampleur de l'inondation. Au sud de Winnipeg, près de 100 000 hectares de terres agricoles sous l'eau. Une véritable mer intérieure sur 16 kilomètres de largeur. Reste qu'au fil des ans, les fermiers de la vallée de la Rouge ont appris tant bien que mal à composer avec la crue. Les caprices de la rivière, c'est le prix à payer pour habiter des terres aussi fertiles. Cette saison sera difficile, mais ils vont survivre, comme en 1997. En attendant, ils n'ont pas le choix. Ils doivent composer avec la nature.
Reportage de Marc-Yvan Hébert de Radio-Canada sur la musique de Émile Lavallée.
Que j'ai rencontré.
Qui donc, le reporter ou le
non,
musicien?
Non, le musicien.
Violoniste, hein, grand
oui,
violoniste.
Un grand violoniste.
Du Manitoba.
Je suis allée chez lui.
Bon ben voilà, c'était notre surprise, notre cadeau aujourd'hui.
Je suis très émue par ça.
Ces crues, Suzanne Aubry, ces inondations qui dévastent les fermes et les alentours, elles effacent des traces. Elles obligent à reconstruire. Et vos personnages, qui doivent se faire pardonner, vivent aussi des formes de crues dans leur vie.
Oui,
c'est ça le symbole.
Dans un sens, oui. Puis quand je l'écrivais, je ne m'en rendais pas compte. Évidemment, si on savait tout ce qu'on écrit, ça serait ennuyeux.
Ouais.
Alors, c'est en leur lisant que j'ai vu vraiment cette image-là. Ils reconstruisent leur vie. Ils doivent empiler les sacs de sable pour éviter les débordements. Puis leur vie déborde, qu'ils le veuillent ou pas, et le passé les rattrape, qu'ils le veuillent ou non.
Voilà. Et tous sont dans une obligation de rédemption. Avec ce braquage qui a mal tourné, finalement, tout le monde est coupable, y compris le père de Michel, qui l'a viré de chez lui parce qu'il a fait une grosse bêtise. Alors, il le protège quand même de la police, mais il y a les mères, les mamans aussi, qui voient partir leurs garçons comme ça du jour au lendemain, qui disparaissent, soit en prison, soit...
C'est un enchaînement de circonstances qu'on ne contrôle pas toujours.
Oui.
Et je trouve que c'est la même chose dans la vie. Je trouve que les scénarios que j'écris, j'ai un contrôle sur ce que j'écris. C'est ce qui me satisfait dans un sens dans l'écriture. Mais dans la vie, on n'a aucun contrôle sur ce qui nous arrive.
Alors, vous n'avez pas de contrôle là, puisque trois libraires ont lu votre livre. On va voir ce qu'ils en ont pensé, Suzanne Aubry. France, Suisse ou Belgique, qui désignez-vous en premier?
France,
Mathieu Colombe, face à vous.
Eh bien, alors moi j'avoue, déjà dans un premier temps, j'avoue que j'adore les romans fleuves à l'américaine au niveau du pays, il y a énormément de personnages, on en rencontre plein, enfin c'est très agréable. Et j'ai énormément aimé lire Ma vie entre tes mains, d'abord parce que les chapitres s'enchaînent avec une très belle souplesse, ensuite, bon, on a un petit peu peur dans un premier temps de se faire submerger par les personnages, parce qu'il y a vraiment un roman qui arrive en même temps, etc., etc. Mais l'histoire s'articule très très bien autour d'eux, et même il y a une certaine fluidité dans cette articulation, donc c'est très agréable, et on se retrouve à galoper dans les plaines en suivant votre plume qui est quand même diablement efficace.
Oh, voilà,
vous avez séduit, elle respire, elle se met comme ça les bras en croix quasiment, Suzanne Aubry. Laura Sanchez en Suisse, ça vous va?
Oui, ça me va.
Non, je demandais à Suzanne, mais si ça vous va aussi,
oui, allez-y. Oui, avec plaisir.
Allez-y Laura.
Allez, c'est à moi.
Oui, allez.
Oui, alors, ben oui, sacré voyage que ce roman, moi ça m'a tenu en haleine jusqu'à la dernière page. C'est une véritable machine romanesque. L'auteur nous mène dans les méandres d'une histoire complexe et très bien ficelée. Et même si les rebondissements ne sont pas toujours vraisemblables pour moi, au final on s'en accommode tant le rythme est maintenu. Et puis alors, galoper dans ces prairies canadiennes, moi j'ai eu beaucoup de plaisir aussi.
Allez-vous faire l'unanimité? On va voir en Belgique avec Annick Dor. Confirmez-vous ou pas?
Oui, je confirme. J'avoue que j'ai eu simplement un tout petit peu peur au début parce que c'est vrai que le titre, alors c'est un peu un détail, mais ne m'attirait guère. Et puis que les premières pages, en fait, m'ont laissé un petit peu indifférente. Mais au bout d'un moment, j'ai lâché prise. Je me suis vraiment laissée emporter par l'histoire parce que c'est vrai, on l'a dit, c'est vraiment une plume efficace. On est tenu en haleine et j'ai vraiment eu envie de connaître la suite. Donc j'ai aimé la construction avec ses allers-retours comme ça d'une époque à l'autre et d'un personnage à l'autre. Et aussi, c'est vrai, c'est un magnifique portrait de la province de Manitoba et ça donne envie d'aller faire un petit tour.
Oui, exactement. C'est un vrai voyage. Suzanne Aubry, elle est ravie. Je rappelle, si vous rejoignez la librairie francophone, que nous sommes avec Suzanne Aubry, auteure à succès du Québec, qui publie Ma vie entre tes mains chez Robert Laffont. Alors Suzanne, 14 ans après un événement terrible, trois hommes de la trentaine sont à un tournant de leur vie. Soit ils continuent à vivre avec cette charge morale, soit ils assument leur culpabilité et ils sollicitent le pardon. C'est ça la question?
Oui, je suis pas du tout religieuse, mais je crois à la rédemption. Je crois à la possibilité du pardon dans des circonstances tragiques, parce que c'est tout ce qui nous reste à un moment donné. Puis moi, je pardonnerais pas tout, mais dans le roman,
oui.
Je suis plus encline au pardon. Et il y a aussi, c'est des situations limites que j'ai décrites, et je me suis posé la question à un moment donné, est-ce que c'est mélo? Et je me suis dit, la vie est mélo. Il y a des choses mélo qui me sont arrivées, terribles, sur lesquelles j'avais absolument aucune prise, et je veux parler de ça. Et j'ai parlé de certaines choses que je connaissais. Bien sûr, j'ai jamais braqué, je suis pas une voleuse, j'ai jamais tué personne, mais il y a des choses sur la vie et la mort que j'ai connues récemment, et ça m'a porté dans ce roman-là aussi.
Quoi, par exemple?
Ben, perdre un être cher, et je l'ai fait, en fait, elle a survécu dans mon roman, c'est ma sœur. Et c'est un personnage que j'ai transposé dans le roman et elle survit. Ça, c'est la merveille du roman aussi.
Vous l'avez sauvé dans le livre.
Je l'ai sauvé dans le livre.
Il y a des choses que vous ne pourriez pas pardonner, oui? Vous le disiez là tout à l'heure.
Oui, il y a des choses que je ne pourrais pas pardonner. Si on faisait mal à ma fille, par exemple, ça c'est certain, je ne pourrais pas pardonner.
Ah oui.
Jamais.
Parce que dans votre livre, il y a des pardons difficiles.
Oui. Mais c'est, encore une fois, je ne savais pas à quel point cette question me préoccupait jusqu'à ce que j'écrive finalement sur ces sujets-là. On se rend compte au fond d'où on vient, plus tard, pourquoi
on est capable de faire. Oui.
Exactement. Alors mes personnages, c'était moi en fait qui pardonnais à travers eux, je pense.
En tout cas, vous montrez que les hommes, Suzanne Aubry, ne peuvent pas arriver tout seuls au pardon. Ils sont entourés des femmes qui favorisent le chemin, qui provoquent la rédemption. Le pardon, c'est plus accessible pour les femmes, vous pensez?
Je pense que oui.
Ouais. Bah, pas chez vous, apparemment.
Non, mais je suis pas une femme comme les autres. Non, je sais pas. Je pense que je réussis à pardonner grâce au roman, grâce à l'écriture. Parce que c'est une réflexion sur soi aussi, sur notre propre vie.
Mais il y a une belle morale, en tout cas, dans cette histoire, Suzanne, parce que vous montrez que la parole, l'échange, la main tendue, que l'on se dispute, que l'on vive des moments difficiles, des confrontations, des divisions, des séparations, finalement, quand on part du principe qu'on peut parler à l'autre, qu'on peut communiquer avec l'autre, on arrive toujours à quelque chose.
Je pense que oui, c'est mon côté peut-être humaniste ou optimiste, pessimiste, mais je crois qu'éventuellement, en dehors de l'orgueil, parce qu'on est des êtres souvent très orgueilleux, pétris de chaînes qu'on se met nous-mêmes, et quand on se défait de ces chaînes, oui, c'est plus facile de regarder l'autre, de s'intéresser à l'autre et de cesser de toujours rapporter tout sur soi.
Merci beaucoup, Suzanne Aubry. Merci d'être venue dans la librairie francophone pour la première fois.
Oui.
On est ravis de vous accueillir. Vous êtes une auteure très connue au Québec. Ravi en tout cas que vous puissiez publier aussi ce livre, Ma vie entre tes mains, aux éditions Robert Laffont, pour la première fois donc en Europe. Mais vous êtes évidemment distribuée au Québec depuis de très nombreuses années. Si vous aimez les gros romans à suspense, avec des histoires de famille et des secrets inavouables, ce livre est fait pour vous. Et en plus, vous voyagerez du côté de la Rivière Rouge au Manitoba.
Merci
Suzanne, à bientôt.
La vie, c'est bon, 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 mais pas trop quand même.
Dans quelques instants, Jean Dormesson chez lui pour un grand entretien très délicat, vous allez l'entendre. Avant cela, voici le nouveau titre du groupe Vodou Game.
Ma foi des fois souvent, mais il faut mourir alors, sinon la vie.
Vaudougem, la vie c'est bon, ils ont bien raison. Sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les radios francophones publiques.
RTS la première.
RTBF la première.
Ici Radio-Canada première.
France Inter.
Oh, ça va être bon cette séquence. Toutes les semaines, on vous emmène dans la plus grande librairie du monde avec des libraires qui vous présentent des coups de gueule ou des coups de cœur. On va voir comment ça se passe du côté du Québec avec Billy Robinson qui pousse un coup de gueule, je crois, aujourd'hui, Billy.
Eh oui, un
coup de
gueule.
Qu'est-ce qui se passe au Canada, Billy? Allez-y.
En fait, je vais vous parler de ces livres dont les titres en anglais là, sont tout sauf quelque chose de cool. Alors, je m'explique.
Ouais.
Il y a quelques années, là, une abondance de plus en plus frappante de romans qui paraissent là, chez les éditeurs et qui sont affublés là, de titres en langue de Shakespeare. Alors, je me fais le porte-parole de quelques-uns de mes collègues et en mon nom personnel, bien entendu, pour en quelque sorte m'insurger là, contre cette pratique que je trouve là, aberrante et irrespectueuse des lectorats francophones. Si le but est simplement de vouloir faire cool, dans le vent, je trouve que c'est plutôt de mauvais goût. Il y a tellement de belles possibilités de titres en français. Chers éditeurs, surprenez-nous!
Suzanne Aubry, vous avez déjà publié avec un titre en anglais?
Non.
Ah, heureusement, vous échappez belle. Bon, d'accord, bah, écoutez, c'est noté. Merci beaucoup, Billy. Dans la catégorie des livres de poche, on part en Belgique avec Annick Dor pour un coup de cœur, cette fois, je crois, Annick.
Oui, un énorme coup de cœur pour l'excellentissime roman de Sorge Chalandon, Profession du père.
Ah, je suis d'accord, je m'associe à votre coup de cœur.
On ne peut pas ne pas aimer. Alors, un roman qui pose donc la question de la violence psychologique dans la cellule familiale. Alors, le livre est dominé par la peur, la manipulation, et pourtant, on le lit vraiment avec plaisir, tant l'écriture de Chalandon est forte et juste. Moi, je suis ressortie de cette lecture complètement bouleversée, et puis admirative aussi de l'auteur qui a pu écrire ça et qui a pu se construire malgré la folie et destructrice de son père.
Voilà, exactement. On l'avait reçu hein, d'ailleurs pour ce livre. Ouais. Je crois qu'il avait eu 2-3 critiques hein, de libraires. Mais en tout cas, c'est votre coup de cœur. Vous avez raison. Ouais. Oui, Mathieu, je crois. Hein, oui.
Moi, j'aime beaucoup aussi.
Ah, vous aimez beaucoup. Ah, d'accord.
Oui.
C'est pas négatif.
Ah, non, pas
bon, parfait. Profession du père de Sorge Chalandon. Et donc, c'est en poche au livre de poche. On retourne chez Jean d'Ormesson pour un entretien intime.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Jean d'Ormesson est dans la librairie francophone cette semaine pour le guide des égarés. C'est ici chez vous à Neuilly, sur Seine, juste à côté de Paris, que vous écrivez, Jean?
J'écris n'importe où. Il y a 30 ou 40 ans, dans les années 70, la mode était d'aller dans les cafés travailler.
Vous ne l'avez jamais fait, vous?
Non, parce que je peux travailler n'importe où, mais il me faut du calme. Il me faut du calme.
Alors votre livre, Jean d'Ormesson, est un manuel, il y a même un mode d'emploi. La question centrale, qu'est-ce que je fais là? Vous vous posez toujours cette question-là?
Écoutez, c'est une question que je me suis toujours posée. Je me rappelle très bien qu'enfant, à 6 ans, peut-être 7 ans, je jouais avec des petits amis et tout à coup je m'arrêtais en me disant « mais qu'est-ce que je fais ?» Je vous assure, mais à quoi ça sert? Mais où est-ce que je vais?
Ce que vous faites là, à ce moment-là, dans cette situation donnée, ou ce que vous faites là sur Terre, tout simplement?
Les deux.
Ah oui.
Vous savez, le point de départ de ce livre, dont il faut dire d'abord qu'il est très, très court.
Oui, mais très, très dense.
J'ai écrit des livres très longs, celui-là est un peu serré. Le point de départ, c'est l'étonnement. Et vous savez, l'étonnement, c'est un sentiment proprement philosophique. Et évidemment, la philosophie vient d'une interrogation. À quoi sert le monde? Qu'est-ce que je fais là? Ou la fameuse question qui m'a tant occupé, qui avait été posée par Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien?
Et c'est vrai que le mot du livre... C'est le mot mystère. Tout est mystère. Et plus que le mystère, la vie regorge de secrets. Le sens de notre vie est un secret. Et pire, c'est que l'on accepte tous de vivre sans connaître les limites de l'univers, sans même maîtriser la définition de l'espace et de l'infini.
Mais oui, en effet, l'espace, qui est si simple, eh bien cet espace, nous savons désormais qu'il n'a pas toujours existé. Et il naît d'un point minuscule au moment du Big Bang qui se développe, qui est cet espace en expansion, qui est toujours là. Et alors vous voyez, l'espace est extraordinaire, l'air qu'on respire, c'est extraordinaire.
L'eau, la lumière aussi.
L'eau, n'en parlons pas, quelle Quelle matière étonnante.
Matière improbable, vous dites.
Matière improbable. Vous pouvez entrer dans l'eau et l'eau peut entrer dans vous. Enfin, c'est tout à fait stupéfiant. Et donc, le monde est en effet un mystère. Pour aller très très vite, on peut dire que Dieu est tout à fait invraisemblable.
On va revenir à Dieu. Oui.
Mais le monde, avant de parler même de Dieu, le monde est invraisemblable aussi.
Alors du coup, vous nous conseillez dans ce livre de fermer les yeux, de profiter, et je cite, de profiter d'une existence qui est une sorte de miracle, soyons heureux. Jean d'Ormesson, quand on lit cette phrase, on se dit, est-ce qu'on peut vraiment être heureux dans ce monde concurrentiel, ce monde qui nous oblige à nous dépasser, à dépasser les autres aussi parfois, le monde de l'entreprise, le monde des médias, tout ce monde-là, c'est un acharnement permanent, on le voit, vous l'avez vécu vous-même ça?
Oui, je l'ai vécu, je ne peux pas vous dire que je l'ai aimé, cet acharnement, je ne l'ai pas aimé. J'ai été chef d'entreprise puisque j'ai été directeur général d'un grand journal français, le Figaro. J'ai compris assez vite que je n'aimais pas recevoir des ordres. Je n'aime pas beaucoup en donner. Je n'aime pas beaucoup le pouvoir, pour tout vous dire. Ce que j'aime plutôt, c'est traverser le monde en rêvant et peut-être en essayant d'en tirer le plus de bonheur possible. Mais il y a une malédiction, c'est que je crois qu'on ne peut pas être heureux tout seul. Je cherche beaucoup à être heureux, mais je ne peux pas réussir à être heureux si les gens sont trop malheureux autour de moi. C'est pour ça que je suis venu ici, non pas vous parler de grands problèmes, d'humanisme, des droits de l'homme, mais pour que vous alliez mieux, pour que je puisse être heureux.
Mais vous dites aussi que la souffrance est une sorte de prix à payer pour la vie. Il y a des souffrances qui auraient pu vous faire vaciller. Vous en avez connu des souffrances, forcément, comme tout le monde.
Oui, j'ai une très très bonne santé. Mais j'ai eu des problèmes de santé assez graves il y a 3 ans. Ça va bien maintenant. Mais c'est une expérience, vous savez. C'est pas une expérience tellement pour soi-même. J'ai vu des gens, vous savez, tellement malheureux.
Autour de vous ?
Autour de moi, à l'hôpital. J'ai vu des gens tellement malheureux. Et j'ai vu aussi des gens merveilleux qui les soignaient.
Dans ce guide des égarés Jean d'Ormesson, il y a la notion de beauté. La beauté, sans véritable définition, vous l'expliquez très bien, qui rend le monde supportable. Quelle est la musique qui représenterait pour vous la beauté ou qui serait en tout cas l'illustration sonore de votre livre ?
Oh ben écoutez, c'est très simple. Il y a une réponse tout à fait claire. Je n'aime pas l'ennui. Je n'aime pas la pesanteur. Je n'aime même pas beaucoup la gravité et la solennité. Ce que j'aime, c'est une forme de légèreté. Mais le comble de la légèreté, c'est une légèreté qui a un peu de profondeur. Eh bien, il y a quelqu'un qui illustre ça de façon éclatante, c'est Mozart. L'andante, par exemple, du concerto 21 de Mozart. C'est mon hymne national à moi.
Un extrait donc de Mozart du concerto 21, c'est la BO du livre de la semaine. On écoute un extrait avec les commentaires de deux de nos libraires. Et on va donner la parole au libraire. En Suisse, c'est Laura Sanchez qui a lu Guide des égarés. Vous avez apprécié, Laura ?
Oui, tout à fait. Derrière ce titre très accrocheur, voilà un livre surtout personnel. Jean d'Ormesson brosse pour nous les grandes composantes de sa vie, mais il évoque surtout la fin du monde et la finitude de la vie humaine aussi. Alors même si je ne partage pas tous ces points de vue, j'ai été frappée et émue par ce livre parce que c'est avant tout un hommage à la vie.
Eh oui, au Canada, Billy Robinson, êtes-vous d'accord?
Oui, tout à fait. Je me suis laissé emporter là, par les mots justes, les thèmes simplistes mais universels que l'auteur propose avec ce petit livre. Alors, pratiquement un pamphlet invitant à la révolution philosophique pour ce qui est du vivant, de la science et surtout de l'humain. C'est un beau texte rempli de belles intentions et l'auteur, malgré son âge vénérable, semble avoir encore plaisir à partager avec nous et même s'étonner comme on aime devant les petites choses simples et la musique de la vie.
C'est un recueillement, la musique aussi. Il y a des prêtres qui disent, puisque vous êtes catholique, que c'est une forme de prière. Et vous êtes très délicat avec la religion dans ce livre, vous êtes très délicat avec Dieu. Vous prenez comme ça des précautions, peut-être pour ne pas le froisser, mais l'air de rien, vous posez la question de son existence. On a l'impression que vous avez un petit peu peur de lui quand même, s'il existe.
Mais écoutez, je vais vous dire... Encore une fois, j'espère mourir dans la religion catholique, mais Dieu m'a refusé un don qui est la foi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère qu'il existe. Parce que s'il n'existe pas, tout ce que nous voyons autour de nous est vraiment tellement abominable. Alors vraiment, la seule espérance, c'est Dieu. Et évidemment, j'ai une grande espérance en Dieu.
Entre le plaisir, la liberté et la joie, trois paramètres de la vie que vous abordez dans trois chapitres de ce livre d'ailleurs, lequel choisissez-vous pour terminer cet entretien ? Le plaisir, la liberté ou la joie ?
Écoutez, j'ai beaucoup aimé le plaisir. J'ai beaucoup aimé le plaisir.
J'en étais sûr, vous alliez répondre ça.
J'étais un homme de plaisir. Oui.
Même si le plaisir, vous dites, n'a pas bonne réputation, il coûte cher, mais c'est surtout le compagnon du désir.
Oui, la liberté, j'ai adoré la liberté. Si j'ai été quelque chose, c'est libre. Mais il y a quand même une chose qui est supérieure au plaisir, supérieure à la liberté, supérieure au bonheur, c'est la joie. La joie, vous savez, c'est ce qui vous transporte. La joie, c'est ce qui frappe les amants qui se retrouvent.
Une grâce venue d'ailleurs.
C'est une grâce venue d'ailleurs.
Sans vos mots, ça.
Ça nous fait monter au septième ciel.
Vous n'avez pas choisi, Jean, hein, entre les trois. Vous êtes malin parce que vous décrivez les trois. Vous commencez par le plaisir, mais vous n'avez pas choisi.
Oh, bah, je choisirais sans hésitation la joie.
Ah, sans hésitation la joie. Ah, vous changez alors, oui. Je crois que c'était le plaisir.
Mais il n'est pas interdit d'aimer ce qu'on méprise. Je méprise plutôt le plaisir.
Mais le plaisir provoque de la joie de toute façon. Ou c'est la joie qui provoque le plaisir?
Ah non, le plaisir éloigne de la joie, écarte de la joie. Si vous vous perdez dans le plaisir, vous ne ressentez plus cette joie que vous donne Mozart, un lever de soleil. Pour les gens de plaisir, vous savez, le lever de soleil ou le coucher de soleil, c'est presque rien.
C'est banal. Oui.
Alors que la joie est là. Quelle est la joie? C'est de vivre.
Êtes-vous un sage? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui vous fait peur ou qui vous contrarie au point de gâcher des moments, au point de gâcher une journée?
Vous savez, il y a très peu de choses qui me contrarient maintenant. Je dois vous dire, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup de choses. J'aimais beaucoup les souliers, les chaussures. J'aimais beaucoup les chemises. J'aimais follement les voitures. Si on riait ma voiture, ça me rendait malade. Et bien maintenant, ça m'est complètement égal. Vous pouvez rayer ma voiture tant que vous voulez. Ça m'est complètement égal. Donc j'ai pris peut-être une espèce de sagesse. Mais vous savez, je n'attache pas beaucoup d'importance à ce qu'on appelle l'expérience des vieillards. Je me rappelle On me demande souvent quels conseils donneriez-vous aux jeunes gens. Je me rappelle très bien quand j'étais jeune que je regardais avec beaucoup de mépris les vieillards, souvent académiciens, qui donnaient des conseils aux jeunes gens.
Ça vous énervait ?
À vrai dire, ça faisait plus que m'énerver. Je les vomissais.
Carrément.
Oui, je les vomissais. Et je me suis juré que je ne serais pas le vieillard qui dit aux jeunes gens « Ah, c'était mieux avant ». Vous savez, je ne crois pas que c'était mieux avant.
Vous n'êtes pas réactionnaire, alors ?
Je crois qu'il est très bon de réagir.
Oui.
Mais dire que c'était mieux avant, je n'en crois rien du tout. Et pour tout dire, ce qui m'intéresse, même à mon âge, c'est l'avenir. J'ai un maître qui est un grand philosophe, qui est Woody Allen, et qui dit « l'avenir m'intéresse parce que c'est là que j'ai l'intention de passer mes prochaines années ».
Merci beaucoup Jean d'Ormesson. Merci infiniment pour cet entretien délicat chez vous ici dans votre maison de Neuilly. Merci pour votre accueil.
Merci à vous, j'étais enchanté de parler avec vous.
Merci beaucoup Jean. Guide des égarés est paru chez Gallimard en coédition avec les éditions Héloïse d'Ormesson, que l'on salue au passage Héloïse. Merci beaucoup Jean, à bientôt.
Merci, c'était épatant, c'était très très bien. Et mille vœux pour la francophonie.
Et à noter aussi la parution d'un florilège de textes de Jean d'Ormesson, ses moments de bonheur, ses midis d'incendie dans la magnifique collection bouquins chez Robert Laffont. Dans la plus grande librairie du monde, pour la catégorie des beaux livres, on part en Suisse avec Laura Sanchez. Coup de gueule ou coup de cœur, Laura ?
Eh bien Emmanuel, un super coup de gueule aujourd'hui.
Ah.
Pour un beau livre. Alors, vous prenez Michel Juvet, qui est expert des marchés financiers, mais qui fait des photos pendant son temps libre.
Oui.
Vous ajoutez Mélanie Chapuis, qui est romancière la plupart du temps. Mais cette fois, on se demande un peu ce qui lui est arrivé.
Oui.
Et vous obtenez un livre de photos de pieds d'artistes venus en 2015 à cet énorme événement musical qu'est le Paléo Festival de Nyon. Alors bon, quand même, on peut y voir les pieds de Cœur de Pirate, Arnaud, Arthur Age, Véronique Sanson, etc. Mais bon, des images très moyennes, des textes rares et anecdotiques, et voilà un livre de plus qui finira au pilon. Bon, ouais, je vous dis le titre hein, même.
Allez-y.
Allez, je vous dis le titre. Paléo, portrait en pied, et c'est sorti chez Slatkin.
Excusez-moi, c'est juste... j'allais le défendre en plus ce livre. Mais je vois Mathieu qui est complètement atterré.
C'est pas possible.
Vous êtes un peu dur parce que je le trouve assez sympa ce bouquin. Moi, c'est rigolo de voir les pieds des artistes.
Bah après, si moi, j'ai un truc personnel quand même, c'est que les pieds, moi, ça me fait peur. Donc,
oui, c'est coup, ça. Oui. Bon, d'accord. Bon, écoutez, en tout cas, Laura, voilà, si ça vous tente, Paléo, portrait en pied de Michel Juvet et Mélanie Chapuis, que l'on salue au passage aux éditions Slatkin. Bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les romans contemporains. Tiens, avec vous, Mathieu Colombe. Coup de quoi?
Un très gros coup de cœur.
Ah, allez-y.
Énorme coup de cœur. En fait, on va même parler de ma meilleure vente. C'est le dernier livre de Luc Lang, Au commencement du septième jour. Alors, qui a déjà une particularité, c'est que c'est un des rares romans à faire donc l'unanimité dans ma librairie. On a tous adoré. Arrêtez de rire.
Excusez-moi.
Coup de cœur.
Non, allez-y. Vous me faites rire aujourd'hui. Allez-y.
Donc oui, c'est un livre qu'on a tous aimé, ce qui est quand même assez rare parce qu'on a des goûts assez tranchés dans le magasin. Donc c'est, comment dire, il y a énormément de choses à dire de ce livre. D'abord, bon, c'est un parcours initiatique, certes. C'est aussi une réflexion sur l'essence même de la vie. C'est un livre qui est porté par une écriture absolument magnifique. C'est un livre que, quand on le commence, on est obligé de le terminer. Il se mange pas, il s'avale, il se gobe, il se déguste même pas. On a pris une frénésie en le lisant. J'aimerais que ce soit un des prix de la rentrée littéraire.
Oui, parce qu'il est sûr, il est sélectionné.
Il est sur les listes, oui, oui. Ouais. Et il faudrait vraiment qu'il le soit, parce que c'est vraiment un des romans qui m'a le plus marqué de la rentrée.
Merci beaucoup Mathieu. Au commencement du septième jour de Luc Lang aux éditions Stock. La librairie francophone avec Suzanne Aubry, Jean d'Ormesson et Christophe Donner. C'est un ovni, une fantaisie, un livre très à part. L'innocent raconte l'adolescence de Christophe entre 13 et 15 ans. C'est l'adolescence de Christophe Donner. Bonjour Christophe.
Bonjour. À peu près, oui.
À peu près.
C'est toujours une fabrication. L'écriture fabrique de la fiction. Mais mon envie d'écrire, c'est de m'approcher du réel.
Très bien. Alors vous vous approchez du réel.
Mais je sais que
on
c'est de la fiction.
Découvrir.
Ça,
oui, enfin on va voir, Christophe, hein, parce que c'est un livre sulfureux, léger, instantané comme un polaroid. Un livre qui va probablement agiter nos libraires. On poursuit cette conversation après une reprise d'une chanson de Jacques Dutronc interprétée par la Belge Anne Pierlet. Là aussi, ça peut faire débat, réussi ou pas. C'est le tube francophone de la semaine.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseux sont ravis. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses et les cafés nettoient leur glace. Boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard.
Avec ce titre que vous avez tous reconnu, il est 5 heures, Paris s'éveille. Réussi ou pas, à vous de juger. Moi, je trouve ça pas mal, Mathieu, hein, vous aimez bien aussi.
Elle chante très aiguë, la dame.
Anne Pierlet, sur ici Radio-Canada Première, RTBF la première de l'RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Christophe Donner est dans la librairie francophone cette semaine pour L'Innocent, paru aux éditions Grasset, une fantaisie littéraire très sexuelle. Christophe découvre son corps et la sexualité entre 13 et 15 ans. N'y allons pas par quatre chemins, abordons le fil rouge de ce roman, Christophe Donner. Il a une obsession pour la masturbation intensive.
La sexualité en général, oui.
La masturbation.
Oui, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il trouve un autre moyen.
Oui. C'est ça. Et vous écrivez, j'avais le besoin de le faire partout, je marquais mon territoire, lâchant ma semence aux quatre coins de la terre.
Oui, c'était, chaque fois que j'arrivais quelque part, c'était l'occasion de nouvelles expériences. le lieu, les lieux étaient des lieux masturbatoires, incitatifs. Ah
ouais. Vous avez parsemé comme ça les quatre coins de la...
Oui, pendant quelques années.
Ouais. Ah oui, c'est presque prétentieux. C'est,
ben non, c'est comme ça. Ça confine parfois au malheur, à l'obsession, mais c'est quand même au départ un grand plaisir.
Ouais. Bon, ouais.
Je sais pas, enfin bon...
Ah mais c'est votre, ça n'engage que vous, Christophe, bien sûr. Non, mais
je crois que ça engage beaucoup de gens. Excusez-moi,
mais Suzanne Aubry rit beaucoup à côté de vous. On est confronté au cas typique du petit bourgeois avec des parents aisés. Autour de 1968, c'est la belle vie, hein, Christophe Donner. Votre père vous fait passer des vacances avec un ami chanteur très connu à Saint-Tropez. On est libéré. Il y a des échanges sexuels entre les adultes. Ils n'ont aucun tabou dans votre histoire, ces gens-là.
Les tabous, c'est les tabous. Il faut ne pas en avoir. Oui. Ça, c'est un grand tabou.
Ouais.
Donc, ça pose des problèmes, c'est comment éliminer les tabous et comment les transgresser à tout va.
Par exemple, dans une villa de Nice, on vit pieds nus, comme ça, on dort dans la même chambre, et puis tout peut se produire, tout peut arriver.
Vous voulez dire avec la mère ?
Par exemple, ouais. Oui. C'est assez troublant comme histoire, ça.
Oui, c'est une espèce d'inceste non pratiqué, encore plus étrange. J'aime beaucoup cette histoire.
Vous êtes dans la même chambre que votre mère.
Oui, on dort dans la même chambre. Voilà. Moi, j'ai 13 ans, exactement. On dort dans la même chambre. Et puis, moi, comme partout, comme je vous l'ai dit au début, comme vous me l'avez fait dire.
Vous l'écrivez tout le long.
Je me branle partout. Et donc là, j'ai aucune raison. Je suis dans mon lit. La situation est tout à fait adéquate. Donc, je me branle.
Ouais.
Et je dois faire un peu de bruit parce que ma mère, qui est à côté, m'entend et dit « Je sais ce que tu fais ».
Voilà.
Donc je m'arrête terrorisé, terrifié, paralysé, tout ce que vous voulez. Et puis j'attends que ça passe. Quoi. Bon. Et je l'entends, elle. J'entends ce qu'elle fait, elle.
Avec des soupirs.
Voilà.
Et une jouissance.
Et je ne dis pas « je sais ce que tu fais ».
Non.
Parce que je ne sais pas ce qu'elle fait, mais je sais très bien ce qu'elle fait. Et voilà, c'est tout, c'est fini.
Ça vous a choqué ou pas ?
C'est une histoire qui m'intéresse, comme vous disiez tout à l'heure. Ce qui est important, c'est les histoires.
Mais quand vous l'avez vécu...
Je cherche les histoires, je cherche à raconter des histoires.
D'accord, mais après... quand vous l'avez vécu et quand vous la racontez aujourd'hui ?
Oui, c'est troublant.
Hein. Oui.
D'autant plus que la psychanalyse se mêle de ça, parce que ma mère était psychanalyste.
Oui, oui.
C'est encore plus étrange.
Beaucoup de choses sont bafouées, en tout cas, hein, dans ce livre, Christophe Donner, bafouées par les adultes. On photographie Christophe, donc vous, quand il est tout gamin, enfin 13-14 ans, on le caresse à la moindre occasion. Cela sous le regard presque bienveillant des parents. C'est une autre époque. Aujourd'hui, c'est la condamnation immédiate pour pédophilie.
Bah oui, c'est l'époque. Les époques changent, les milieux changent, et c'est comme ça.
On va dire que c'est un livre pervers aussi, non ?
Ah ben, ce serait joli de dire ça.
Ah, ça vous irait.
Oui, bon. c'est quelque chose.
La perversité. Alors, du côté des libraires, ce qu'ils en pensent.
Oui, je redoute le pire.
Du côté de la Belgique, par exemple, Annick Dor.
Oui, moi, c'est pas le côté pervers, c'est plutôt le côté auto-centré qui m'a dérangé. C'est vrai que je pense que si un écrivain est libre de parler de lui, et exclusivement de lui, je pense que le lecteur est libre de trouver ça lassant. Et moi, je suis un petit peu dans ce cas de figure-là. J'ai trouvé ça terriblement narcissique et puis finalement assez anecdotique. Donc, j'ai pas tellement adhéré à la démarche. Je trouve que ça manque d'humilité. Ceci dit, c'est bien écrit. Ça, je ne reviens pas là-dessus. Mais voilà, moi, je me suis un petit peu ennuyée, j'avoue, en lisant cette confession intime.
Mathieu, pour la France, vous n'êtes pas d'accord ?
Non, non, non. Alors, même si au départ, j'étais un petit peu dérouté par le jeu des pronoms, en fait. Il faut comprendre qu'on a voulu faire une construction cinématographique. Et d'ailleurs, c'est un effet qui rend plutôt bien, voire même très bien. Et en fait, une fois qu'on a intégré cette spécificité, on prend un réel plaisir de lecture. Bon, effectivement, moi non plus, je suis pas trop un fan d'autofiction, mais ceci étant dit, il a fallu tout votre talent, Christophe Donner, pour me garder présent. Et effectivement, vous y êtes arrivé parce que votre style est alerte, le découpage est efficace et votre humour de dandy désabusé, ça a su vraiment me captiver. Et finalement, je me suis ressorti de ce livre avec une excellente expérience de lecture.
Ben, je suis enchanté.
Pensez-vous que le fait d'être livré à soi-même, Christophe Donner, au moment de la puberté, puisse influer sur l'épanouissement sexuel futur ?
Mais on n'est jamais livré à soi-même. Comme je vous dis, la volonté de briser les tabous est un esclavage. Et voilà, et on trouve toujours des censeurs. On est soi-même les censeurs d'autres ou de soi-même. Et donc, il n'y a pas de règles. Quoi. Je crois franchement avoir eu une enfance singulière, ouais. Et en même temps je crois que tout le monde a une enfance singulière, ouais, heureusement, ouais. Et que tout le monde...
Bah, la vôtre particulièrement, quand même.
Oui, ça participe à l'impression que j'avais de vivre un moment important. C'est qu'on vivait un peu au milieu des stars, hein, des grands chanteurs, des lieux un peu magiques comme Saint-Tropez, comme Pézenas, comme Aix, etc. C'est vrai qu'avec la distance, tous ces chanteurs qui ont bercé l'univers, qui ont éduqué les gens comme ça, et d'être au milieu à 13 ans, d'être... petit garçon de 13 ans qui va avec Bobby sur la plage et puis sa
Bobby
fille
la
qui
pointe.
Avec Bobby Lapointe et qui tombe amoureux de sa fille et qui se fait dépuceler par elle, etc.
Ah, ça, mais c'est ça l'histoire, c'est avec Bobby Lapointe.
Oui.
Parce que vous ne le dites pas dans le livre.
Bah non, parce que j'ai eu des ennuis.
Bah là, c'est fait.
Non, bah non, parce que comme
mais à la
c'est
radio,
sur
on
livre,
peut. Oui.
Voilà. Mais après, elle dira que c'est pas vrai. En fait, c'était avec quelqu'un d'autre. Bon, voilà. Ça fait des histoires.
Oui, mais on
donc,
est perdu.
Forcément, on se sent. Se sent important, quoi.
Ouais.
Ça vous met adolescent dans une ambiance de supériorité, ouais. Quoi.
Donc vous l'avez bien vécu, ce contexte sexuel, tout ça.
Oh, je crois. Oui, franchement.
Non, parce que vous le racontez avec beaucoup de naturel, beaucoup de détachement.
Bah
et
oui,
pourtant, c'est une période charnière. 13, 14 ans, c'est compliqué, non?
Oui, oui. Non, je crois que j'ai été un enfant assez malheureux jusque-là. Et la masturbation m'a quand même
vous a libéré. Je n'ai jamais entendu ça dans cette émission. Le mot de la fin, c'est pour un libraire. Billy Robinson, au Canada, vous avez l'honneur de conclure cette semaine.
Alors, c'est avec grand plaisir là, que je vais vous dire que j'ai beaucoup apprécié ce roman aux effluves autobiographiques. Alors, même si la question de l'obsession sexuelle est souvent abordée dans beaucoup de romans, ici, le tout est rendu dans un récit. Ici, là, sans détour, que j'imagine là, plein d'autodérision et même de sarcasme. Alors, la construction est originale. On passe de la narration omnisciente à un jeu bien senti qui nous fait voir un garçon épris de ses premiers émois sexuels dans une époque avec ses excès, ses désirs et ses utopies. Je l'ai lu là, d'une traite.
Voilà. Vous avez séduit 2 sur 3 libraires. C'est pas mal.
Oui, mais je comprends le troisième rectif, c'est tout à fait légitime. Non, c'est bien. C'est pas...
Les excès, il y en a encore?
Beaucoup moins. Enfin, mais des livres, il y en a encore. Et sur les excès d'après, oui. Le prochain traite de la vie sexuelle
encore
à 30 ans.
Oui. 30, ah oui, vous allez
30,
faire...
Oui, je voulais faire une trilogie.
Ouais.
Finalement, il n'y en aura que 2 parce que ça suffit. Mais alors là, c'est hard. Le deuxième, c'est hard.
Ah, c'est hard.
Non, mais là, c'est une bluette. Là, vous avez lu.
Ah, c'est une bluette, là. Oui, d'accord. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça va être, hein? Bon, on va vous suivre avec attention. Ça fait beaucoup rire nos invités en plateau. Merci beaucoup, Christophe Donner.
Merci à vous.
Merci infiniment. Vous êtes un fidèle de l'émission. On est ravis de vous accueillir à chaque fois. Votre roman L'Innocent est paru aux éditions Grasset.
La librairie francophone. Emmanuel Guérad.
Avant de conclure, coup de pouce à un artiste francophone, voici Hildebrandt et un extrait de son premier album.
Je pue un peu, moi, je pue la mes poids, je suis pas mal, moi, là. Je suis, je sens, je, moi l'animal amant, remuez la queue, montrez les dents. Tu prends la peau, les plis en suspens, tu prends tout ça, tu sens que nos instincts nous poussent à l'instant, tout s'éteint sous le temps. Viens, ni bien, ni mal, la vie c'est les animaux. La vie c'est les animaux. Viens, là sous le voile. La vie c'est les animaux. La vie c'est les animaux.
Les animaux, c'est le titre. Je ne me trompe pas, un extrait de l'album de Hildebrandt que vous pouvez retrouver sur internet. Et c'est la fin de cette édition. Toutes les infos, c'est sur le site internet de votre radio francophone. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Serge Gandon avec Mehdi Farah. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Marie-Louise Beau en France. Martine Béguin-Follet et Annick Chouet en Suisse. René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, Alain Chamfort et Giuseppe Santoliquido, entre autres. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bonne semaine à vous. Salut.